Les récents discours nous venant d'outre-Atlantique semblent indiquer un refroidissement des relations diplomatiques entre Israël et les États-Unis. Alors, comment interpréter ces revirements? On en parle. Enfin, Lucie Gilson en parle avec Sébastien Lévy, spécialiste des relations entre les États-Unis et Israël.
Sébastien Lévy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes correspondant américain des Cahiers Bernard Lazare et spécialiste des relations entre les États-Unis et Israël. Israël est aujourd'hui plus que jamais sous le feu des critiques quant à sa politique à Gaza et particulièrement provenant des États-Unis. Toutes les informations que l'on reçoit aujourd'hui indiquent un sérieux refroidissement des relations entre Israël et les États-Unis. Peut-on envisager que Washington retire son soutien à Israël?
Alors, pour répondre de façon et pour tranquilliser également vos auditeurs, la réponse est non. Je pense que c'est très important de rappeler que ce qui est en jeu en ce moment, c'est une crise de confiance extrêmement marquée entre le gouvernement Netanyahou en particulier, et l'administration américaine. Mais en aucun cas, il ne s'agit de retirer soutien à Israël. Je vais juste vous citer une phrase qui peut-être, je pense, illustre la situation actuelle. Joe Biden a donné une interview à MSNBC la semaine dernière où il est extrêmement critique envers Netanyahou, mais dans le même temps, il a aussi dit, et je le cite en anglais, I will never leave Israel. Je n'abandonnerai jamais Israël. Donc les choses sont très très claires. Il y a vraiment une distinction extrêmement forte à opérer entre le soutien à Israël d'un côté et la confiance en Netanyahou, qui sont deux choses complètement différentes. Et les propos très durs qui ont été tenus par Chuck Schumer, finalement, sont aussi une illustration de cette situation. Chuck Schumer étant, et on y reviendra sans doute l'officiel le plus pro-Israël du Parti démocrate et qui le demeure.
Alors, à l'heure où on parle, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'entretient avec le président Joe Biden pour la première fois depuis un mois. Qu'attendre de cette conversation dans ce contexte de tension, justement, entre les deux
Alors,
pays?
vous savez, il y a 2 semaines, à l'État de l'Union, qui est le discours que le président américain classiquement donne chaque année devant le Congrès, Joe Biden a été surpris. Alors, on ne sait pas si c'était vraiment surpris ou pas, mais en tout cas, on l'a entendu parler à des membres du Congrès après en disant, j'aurai une conversation très franche et très directe avec Netanyahou. Ça s'appelait en fait, it will be a come to Jesus conversation. Donc, ça veut dire, on va se dire les choses clairement. Je pense que c'est dans ce cadre qu'il faut sans doute voir cette conversation aujourd'hui, maintenir le contact avec Israël, évidemment, mais sans doute une discussion franche, sans doute un peu musclée. Et qui va dans les deux sens parce qu'on peut imaginer que Netanyahou aura également des propos sans doute peu amènes envers Biden. Donc ce sera sans doute une discussion assez franche entre alliés, mais entre alliés qui ont des choses à se dire en ce moment. Possible, je dis absolument pas plausible, mais possible que dans les prochaines semaines, Biden décide de ralentir un petit peu le rythme des livraisons d'armes, peut-être de continuer sur ce qu'on appelle les armes défensives, en revanche d'être un petit peu plus prudent sur la livraison d'armes offensives, il est possible qu'il y ait des conséquences. Mais oui, ça reste, c'est très important dans les mots qu'on entend chez Biden ou chez Chuck Schumer, de vraiment distinguer entre ce qui est le soutien au pays Israël, qui est fondamental, et en revanche la défiance envers Netanyahou.
Alors, vous l'avez évoqué justement les propos de Chuck Schumer, qui était ma prochaine question. Le ministre des Affaires, en fait, il a appelé Israël à tenir des élections, peut être considéré comme une sorte d'appel à l'ingérence. Le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, a réagi aujourd'hui. Comment interpréter cet appel de Chuck Schumer quand on sait que le Sénat américain était toujours relativement favorable à Israël?
Alors, c'est très important d'abord de rappeler qui est Chuck Schumer. C'est très, très important. Chuck Schumer est le chef de la majorité démocrate au Sénat. Ça serait l'équivalent, c'est pas complètement comparable, mais on va dire c'est plus qu'un président de l'Assemblée nationale en France. C'est un rôle essentiel aux États-Unis. C'est surtout l'officiel juif le plus haut dans l'histoire, en fait, des juifs aux États-Unis, à n'avoir jamais été élu. Donc, c'est une position très importante. Chuck Schumer, ça fait 40 ans qu'il est au Parlement américain. Il a d'abord été pendant 20 ans congressman, député, et depuis 25 ans environ, il est sénateur. C'est un faucon par rapport à Israël, c'est vraiment un pro-Israël qui est plutôt à l'aile droite du Parti démocrate par rapport à Israël. Il a par exemple été opposé à l'accord sur le nucléaire iranien, il a félicité Trump pour le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Donc c'est juste pour vous donner le cadre de qui est Chuck Schumer. C'est quelqu'un qui est également très lié à l'AIPAC, historiquement lié à l'AIPAC et le grand lobby plutôt centre droit pro-Israël à Washington. Donc c'est quelqu'un qui est fondamentalement pro-israélien et d'ailleurs qui l'a dit dans son discours. Donc, ce que traduit ce discours, c'est un agacement profond, notamment au sein du Parti démocrate envers Netanyahou. Vous avez également des élections sénatoriales qui vont avoir lieu en même temps que les élections présidentielles. Un tiers du Sénat sera renouvelé en novembre. Et Chuck Schumer aujourd'hui est le chef d'une majorité très étroite, 51-49. Et il tient évidemment à garder sa majorité. Et pour cela, il a besoin des électeurs démocrates qui aujourd'hui, et les chiffres le montrent, sont plus réticents envers Israël que les républicains. Donc, il a aussi besoin, lui, d'envoyer des signaux électoraux. Mais j'insiste, il y a un aspect électoral, mais je pense que la vraie raison pour laquelle il a tenu des propos si durs, il aurait pu se contenter de propos juste, je dirais, un peu plus prudents contre Israël. Il a vraiment eu des propos très durs contre Netanyahou parce qu'il a tenu à vraiment marquer une différence. Il pense sincèrement qu'aujourd'hui, Netanyahou aujourd'hui cause de vrais problèmes à Israël, puisqu'il a employé le mot de paria. Il craint qu'Israël, qu'il a soutenu toute sa vie, ne devienne un État paria en raison de la politique de Netanyahou. C'est ça, en fait, qui a motivé Chuck Schumer à tenir des propos si durs.
Et à quel point on est dans une analyse réelle de la situation?
Alors, c'est évidemment, c'est une bonne question. Il faut savoir que depuis le début de cette guerre, les États-Unis finalement ont apporté un soutien très très fort à Israël, que ce soit à l'ONU, que ce soit dans différentes instances, que ce soit dans les livraisons d'armes. Il faut savoir que plus de 100 livraisons d'armes ont eu lieu, avec 180 cargos qui ont été livrés à Israël. Donc le soutien américain, il est là, dans les faits, soutenu par les républicains, les démocrates et par l'administration Biden. Donc ça, je pense que c'est important. En revanche, Joe Biden, depuis le début, quasiment depuis le début, a vraiment voulu obtenir deux choses de la part de Netanyahou et du gouvernement israélien. La première, c'était quel est le plan de sortie? Quel est l'objectif politique? Comment est-ce qu'on sort de cette guerre? Quel est le plan du jour d'après? Il n'a pas obtenu de réponse à cette question, en tout cas pas de réponse satisfaisante. L'autre chose qu'il a demandé depuis le début, c'est qu'Israël fasse le nécessaire pour acheminer l'aide humanitaire et que le coût humanitaire soit le plus limité possible. Le gouvernement américain estime que ça n'est pas le cas. Donc sur ces deux plans, même des gens pro-israéliens comme Biden et Schumer estiment que Netanyahou n'a pas tenu ses engagements et n'a pas répondu aux attentes américaines, d'où aussi les accusations de la part des États-Unis envers le gouvernement Netanyahou qui serait l'otage des extrémistes. Ça vient de là. Donc il ne s'agit pas de critiquer la guerre israélienne à Gaza. Tout le monde insiste sur le fait que cette guerre est légitime. L'éradication du Hamas est un objectif légitime. Mais aujourd'hui, le gouvernement américain estime que la conduite de cette guerre et l'absence de réponse à ces deux sujets cruciaux pénalisent Israël dans la conduite de cette guerre et dans la légitimation de cette guerre auprès de l'opinion publique internationale et des chancelleries dans le monde.
Alors, il y a un autre personnage de l'espace public, un personnage prégnant américain qui a tenu des propos très critiques envers la politique israélienne récemment, c'est Donald Trump, dans une interview donnée à Fox News. Il a accusé Israël de perturber la paix mondiale avec le conflit entre Israël et le Hamas. Comment interpréter ces propos? Est-ce que c'est une manœuvre politique pour capter l'électorat de Joe Biden?
Alors, pardon, vous pouvez me dire, pardon, vous me dire que, est-ce que j'ai pas pour le coup vu cette interview? Ça, c'est Donald Trump qui a tenu ses propos sur, d'accord. Alors, en ce qui concerne Donald Trump, c'est toujours un petit peu plus compliqué de suivre sa ligne de conduite diplomatique qui peut varier d'un jour à l'autre. Il est possible effectivement qu'il y ait un aspect électoral là-dedans. Il faut savoir, il y a une différence majeure entre les deux approches par rapport à Israël. Donald Trump a été considéré comme pro-israélien parce qu'il a fait plein de, il a eu plein de gestes, notamment le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Mais Donald Trump n'est pas ne se n'a pas d'attachement personnel ou politique à Israël. Donald Trump a un attachement transactionnel à Israël. Israël, il le voit comme une manœuvre, comme un sujet politique qui lui permet de capter des voix, notamment auprès des évangéliques. Alors que Biden est lui un président qui se définit lui-même comme sioniste. Donc l'attachement n'est pas le même. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il est possible que Donald Trump ait tenu ses propos dans uniquement une perspective politique, pour, je dirais, semer la zizanie également au sein du Parti démocrate. Il sait que c'est un sujet qui divise profondément le Parti démocrate. Donc, je pense que c'est sans doute une manœuvre politique de la part de Donald Trump dans cette optique.
Et alors, ma dernière question, parce qu'il a également, dans cette intervention, laissé entendre que sous sa propre présidence, il aurait réussi à normaliser les relations au Proche-Orient, notamment en ce qui concerne l'Iran et le Hezbollah. Est-ce qu'on peut avoir votre analyse là-dessus?
Écoutez, on va dire, j'ai un petit sourire, je pense, qui traduit mon état d'esprit. Le 10 octobre, alors que Joe Biden tenait un discours extrêmement émouvant et pro-israélien, Donald Trump, en fait, qualifiait le Hezbollah de very smart, de très intelligent. Ça ne veut pas dire que Donald Trump est pro-Hezbollah, ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que Donald Trump aime se mettre en avant, c'est même sa marque de fabrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision diplomatique. Il voit le monde sous un prisme et un prisme unique son propre agrandissement personnel et la propre promotion de sa propre personne. Quelle est la vision diplomatique de Donald Trump? Je pense qu'il est compliqué de le savoir. Après, ça serait risible, en fait, de dire, comme il l'a dit, qu'il n'y aurait pas eu d'attaque du Hamas, sans qu'on sait que le Hamas se prépare depuis des années. Il avait dit également qu'il n'y aurait pas eu d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ça serait risible si on ne parlait pas de sujets extrêmement graves. Et ce qui montre finalement le danger, à titre personnel, à mon avis, que ferait courir au monde une réélection de Donald Trump qui a un comportement assez erratique également sur les aspects diplomatiques, qui n'est rien à voir avec l'approche extrêmement beaucoup plus stable et sur les alliances que promeut Joe Biden. Donc voilà, pour moi, c'est assez risible et pas très sérieux.
Alors, j'ai juste une petite question subsidiaire. Est-ce que cette escalade, justement, ces tensions diplomatiques entre Israël et les États-Unis peuvent avoir une conséquence sur la négociation de l'accord pour la libération des otages qui est en cours aujourd'hui?
Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Pour le coup, je pense que là, les intérêts des différentes parties sont les mêmes. Il est vrai que il y a beaucoup de critiques en Israël qui estiment que finalement le gouvernement Biden est plus concerné par la libération des otages que le gouvernement Netanyahou. Il y a cette critique-là. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement américain fera absolument tout pour pousser une négociation positive en vue de la libération des otages. Donc, je ne pense pas qu'il y ait véritablement d'interférence ou qu'il puisse y avoir un lien, je dirais, entre les tensions entre Netanyahou et le gouvernement américain et la libération des otages.
Eh bien, Sébastien Lévy, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes correspondant américain des cahiers Bernard Lazare et spécialiste des relations entre États-Unis et Israël. Je vous remercie.
Merci.
À bientôt, au revoir.
À bientôt.